Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une femme qui continue de se découvrir, de se rencontrer, qui continue sa mutation et son évolution. Allez, on y va, sans plus tarder.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Fatem Zahra Sharaibi, bonjour.
Bonjour Lella.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Je remercie Lella Fatem Zahra.
Alhamdulillah, c'est une belle journée, donc tout va très bien. Je vous remercie à vous de m'avoir invitée.
Alors, qu'est-ce qui a amené une jeune femme comme vous à défendre les autres femmes?
Ah, c'est
personnel
que...
c'est une histoire personnelle?
Bah toujours. Il y a aucune cause qui est animée par autre chose que par du personnel. Il y a toujours eu, bizarrement, il y a toujours eu chez moi une colère.
Oui.
Une colère. Et je ne comprenais pas vraiment d'où ça venait et ce que c'était. Mais avec le temps, je me rends compte et je suis plus consciente de ce qui l'anime, de ce qui la réveille. Et ce qu'il a réveillé, c'était souvent des cas d'injustice que je constatais dans la vie quotidienne, dans la société. Vous savez, je vais vous donner un exemple assez récent, je dirais. C'est quelque chose qui m'a touchée personnellement. Là, je veux vous parler de l'héritage.
Oui.
De l'héritage, c'est on discutait avec mes parents et donc j'ai des personnes dans ma famille qui ont perdu une personne proche et la question de l'héritage de la part d'héritage homme-femme s'est posée et il y a eu un vrai problème dans la famille à cause de ça. Où les frères et sœurs se sont disputés et ça a pris des proportions importantes. Et ça a posé la question dans ma famille. J'ai un frère et j'ai une sœur. Et la question s'est posée de façon très, très sérieuse. Et le ton est monté. Le ton est monté à cause de ça. Quand j'ai ma propre mère qui estime que c'est normal que l'héritage tel que la charia le veut soit normal, je trouve ça, moi, révoltant. Et surtout aujourd'hui, je veux dire, on n'est plus à une époque où à la rigueur, ça pouvait être expliqué, justifié. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Ça, c'est un sujet qui, moi, me touche personnellement, beaucoup. J'ai un garçon et une fille, deux enfants, j'ai un garçon et une fille. Et dès leur plus jeune âge, j'ai particulièrement insister sur leur éducation pour qu'ils se sentent égaux, égaux dans les obligations et dans les droits. Il ne s'agit pas ici de taper sur les hommes, loin de là. C'est une société est un équilibre. Une société, c'est des hommes et des femmes. Nous avons besoin les uns des autres. Et ce besoin-là, pour que cette société puisse être florissante et puisse réussir, il faut qu'il y ait cet équilibre-là et qu'il y ait un respect mutuel.
Alors c'est ça qui est aussi un peu, c'est tellement particulier, parfois schizophrène, c'est que moi, si je mets ça dans le contexte des émissions qu'on fait dans les médias en général, quand on parle d'émissions d'éducation aux enfants, on parle souvent, on reçoit souvent des spécialistes qui sont là à défendre l'importance de la parité dans l'éducation, avec des exemples très terre-à-terre, du genre « il ne faut pas dire à la fille d'aller chercher un verre d'eau à son frère », vraiment le truc basique.
Absolument.
Et donc, les parents jouent cette mission à la maison, la remplissent avec l'éducation, avec nos enfants. Vous êtes maman d'un garçon et d'une fille. Moi, je suis maman de deux filles. Donc, voilà, je fais passer aussi des messages différemment à mes filles pour l'importance de l'égalité. Vous êtes pareil que des garçons. Mais, à un moment donné de leur vie, eh bien, l'extérieur vient leur dire, ou la loi vient leur dire, non, non, vous n'êtes pas égaux, exact. En fait.
Exact.
C'est l'éducation, c'est une chose, mais ça, on n'y touche pas.
Vous savez, Leïla, le monde ne change pas overnight. Il ne change pas du jour au lendemain.
Oui.
Voilà. Le monde change avec des enfants qui vont le changer, avec des générations qui vont le changer. Si la loi aujourd'hui est telle qu'elle est, et si c'est parce qu'il y a des personnes qui l'ont créée, à nous de faire en sorte que les prochaines générations, si nous on n'y arrive pas, c'est pas grave, nos enfants le feront. Mais il faut commencer quelque part. Commençons quelque part. L'éducation, c'est à la maison. L'école fait beaucoup. Et les enfants entre eux, et quand je dis les enfants, je parle des enfants, des adolescents, en particulier, c'est vraiment nos futurs adultes, s'influencent les uns les autres. Ça, c'est un point. Donc, commençons quelque part. Faisons notre part du travail. Vous connaissez là l'histoire du colibri. Faisons notre part du travail. Et ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, par rapport à ce que j'estime moi être important, c'est apprendre à nos enfants, filles et garçons d'ailleurs, et bon, en particulier les filles, puisque c'est le sujet aujourd'hui, que personne, je dis bien personne, y compris nos propres parents, n'a le droit. C'est un mot qui est un peu fort. Disons, ne peut nous dire qu'on ne peut pas faire quelque chose. Je vous dis ça encore une fois, ça vient de ma propre expérience personnelle. C'est quelque chose que j'ai vécu. On m'a toujours dit, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Ça ne part pas d'une mauvaise intention. Je suis en train de parler de personnes qui m'aiment profondément, de mes parents, de ma famille, c'est des personnes qui m'aiment profondément, ce n'est pas discutable.
Oui.
Il y a, tu ne peux pas faire ça, et quelque chose que j'ai entendu très souvent dans ma vie.
Par rapport à quelle forme de, par rapport à quoi exactement ?
À ma vie professionnelle, à ma vie professionnelle, par exemple, à ma vie professionnelle, à prendre, faire ce que j'ai envie de faire, pour être plus concret, j'ai été DRH toute ma vie professionnelle. Cette année, je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, dans un sujet, c'est drôle parce que la discussion est allée là-dedans alors que c'était pas
prévu. Oui.
Exact. Mais c'est dans le domaine des adolescents. Je décide de me lancer là-dedans, alors que toute ma vie, d'ailleurs encore maintenant, dès que j'en parle, est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir ? Et c'est trop dangereux, et patati, et patata. Et c'est une constante litanie de « tu ne peux pas, c'est trop, tu vas pas y arriver, comment tu vas te débrouiller ?» Donc, et c'est en fait leur peur. C'est leur propre peur à eux qu'ils reflètent sur nous.
On peut revenir à cette discussion que vous avez eue avec votre maman, justement. Et après, une fois qu'on a cette conversation, qu'on se rend compte justement que sa propre mère trouve que c'est normal, parce qu'il y a la loi, il y a aussi les mentalités, en fait. Il y a tout ça. Et il y a cette grande discussion actuellement dans notre pays par rapport à la révision de la Moudouane. Certains, oui. Certaines surtout, espèrent que cette question de l'héritage sera revue également. Donc, comment on tourne la page de cette conversation et comment on reprend la vie après, quand on se rend compte de ça, en fait. Que ce qu'on considère comme injustice, eh bien, pour l'autre, pour sa propre mère, ça ne l'est pas.
Je ne vais pas changer ma mère. Ma mère est le résultat de sa propre éducation. Et elle est qui elle est. Et comme je vous ai dit, et je sais qu'elle m'aime. Ce n'est pas une question d'amour. Je ne sais, c'est pas, c'est, elle est, elle a été façonnée de cette façon. Donc, à moi de faire ce que moi j'ai à faire pour que les choses changent pour moi et pour mes enfants. Je ne vais pas changer ma mère.
Oui.
Qu'est-ce que moi je peux faire ? Donc, l'amour que j'ai pour ma mère ne changera pas. L'amour qu'elle a pour moi ne changera pas. Et je vais faire ce que j'ai à faire aujourd'hui. C'est tout. Ça s'arrête là, en fait. Qu'est-ce que moi, je peux faire ?
Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour changer ça ?
Vous parlez de l'héritage ?
Je parle de la condition de la femme en général. Et de l'héritage, pourquoi pas ? Oui, bien sûr.
L'héritage, pour être honnête avec vous, je ne fais pas grand-chose pour l'héritage. Par contre, j'ai trouvé, on m'a envoyé dernièrement un message avec une adresse mail où on peut en fait donner notre avis sur la Mudawana. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et effectivement, j'ai commencé à rédiger quelque chose que je vais envoyer à cette adresse mail.
Mais c'est ce qu'on fait aussi ici, c'est que moi je reçois des personnes vraiment de tous bords et je pose souvent la question, voilà, il y a cette discussion autour de la Mudawana, qu'est-ce que vous aimeriez en tant que femme, en tant qu'homme, voir changer, voilà.
C'est ça, exact. Alors, ce que j'ai fait, en tout cas, il y a beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses avant et je fais autre chose maintenant. Beaucoup de choses avant, j'ai travaillé beaucoup sur l'égalité genre en tant que DRH. J'ai fait des projets au sein de l'entreprise pour augmenter le pourcentage de femmes dans l'entreprise. Faire en sorte que l'environnement professionnel puisse être propice à ce que ces jeunes femmes puissent concilier leur vie d'épouse et de mère et leur vie professionnelle. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Et j'ai fait aussi j'ai travaillé aussi à la création d'un centre de formation par apprentissage où je prenais des jeunes qui étaient en échec scolaire. Et ou en situation difficile. Donc, je travaillais avec des associations, dont Leur Joyeuse, par exemple. Et j'offrais à ces personnes-là la possibilité, à ces jeunes personnes, la possibilité d'apprendre un métier pour gagner en indépendance. Gagner en indépendance et avoir une dignité. Le travail, c'est la dignité. Ça, c'est des choses que j'ai faites. Là, j'essaye de me rappeler aussi. J'essaie de me rappeler d'autres choses. C'est long. disons que c'est les deux points les plus importants. Au travail, beaucoup insisté là-dessus, sur le fait que la femme a sa place et ce n'est pas discutable. Et c'est à nous aussi de faire en sorte que l'environnement lui soit favorable.
Alors,
aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Allez-y. Pardon, je vous ai interrompu. Allez-y.
Aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'ai shifté. Mon mode de fonctionnement a shifté vers la jeunesse, vers la prochaine génération.
Justement, vous êtes toujours en fait dans l'humain, mais d'une autre manière. Vous êtes lancé dans l'accompagnement des ados, après avoir eu une longue carrière en RH, un poste stable, et puis à côté, l'entourage qui a peur pour vous, qui a peur de ce nouveau changement, ce nouveau shift. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui l'a motivé, ce changement.
C'est une très, très bonne question. Je vais vous dire exactement ce qui l'a motivé. Un jour, il y a ma fille de 13 ans, qui me demande de l'accompagner. Elle va sortir avec ses copines.
Oui.
Bien. Donc, elle sort avec ses copines. Ce n'est pas la première fois. Sauf que cette fois, ça a été, le déclic est arrivé suite à plusieurs choses. Le fait est que j'ai dit ok chérie, tu vas aller où? On va au mall. Mm. Ah, ok, on va au mall. Encore une fois, on va au mall. Bon, donc j'emmène ma fille au mall, je la dépose, je vois les copines qui l'attendent, des petites jeunes filles toutes mignonnes que je connais. Je lui donne ses 100 dirhams pour ses petites emplettes. Mm. Et au retour, en voiture, j'ai le cœur serré. J'ai une trouille bleue en train de me... de kenday. J'espère que rien ne va, de mal ne va se passer dans ce mall. Qu'il n'y aura aucun drame, aucun problème dans ce mall. Mm. Pourquoi est-ce que j'ai ces pensées-là? C'est parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est... Je m'en rends compte de plus en plus. Ça m'inquiète énormément et ça m'attriste. Nous vivons dans un monde de plus en plus agressif, de plus en plus dangereux et surtout incontrôlable. Nous ne pouvons plus contrôler nos adolescents, nos enfants. Le monde est à portée d'un clic. Donc, c'est des choses... Le monde avec le beau et le lait, mmh. Hein, on est bien d'accord, il y a les deux. Maintenant, le lait n'est pas contrôlable, je ne peux plus contrôler ça. Et ce que j'entends aujourd'hui, ce que je vois, et les valeurs qui sont transmises à travers les réseaux sociaux, à travers tout ça, ne me plaît pas.
Beaucoup de parents sont dans la même situation. Mais alors justement, fin de journée, vous récupérez votre fille.
Oui. Donc, en fait, l'idée, c'est quand j'ai eu cette boule au ventre et je me suis dit, je ne peux pas contrôler ce qu'elle fait. Je ne peux rien faire de tout ça. Je me suis demandé, ok, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau à moi? Mmh. Et c'est là que l'idée est venue. C'est en fait tout simplement leur offrir une alternative à ces jeunes. Une alternative qui soit séduisante, qui soit... intéressante pour qu'ils y adhèrent. Et à travers cette alternative, les influencer dans le bon sens, encore une fois selon ma vision des choses, les influencer dans le bon sens et inculquer ce que j'ai à inculquer.
Est-ce que ça a été une décision, est-ce que ça, en quelque
évidente.
Sorte... Évidente, pas un coup de tête
comme... Ah, loin de là.
Oui, oui.
Ça a été une évidence. C'est venu comme ça, oui, mais ça a été une évidence. Ça a été une évidence.
Mais pourquoi ne pas avoir fait appel, par exemple, à ce moment-là? Je pense que... Appel, et je pense que... Je vais finir la question. Et je pense que vous avez dû avoir ce commentaire. Mais pourquoi tu vas changer ta carrière, etc., alors que si tu veux, tu peux emmener ta fille chez un psy ou chez un coach? Mais pourquoi tu veux carrément te dédier à ça? Une fois qu'ils vont grandir, qu'est-ce que tu vas devenir? Est-ce que vous avez entendu ce genre de commentaire?
Non, parce que l'idée n'est pas... Mon enfant, ma fille, a été le déclencheur. Mm. Ma fille a été le déclencheur. Mais les enfants, tous les enfants sont mes enfants. Entre parenthèses, ça fait un peu bateau, mais c'est vrai. Tous nos enfants sont nos enfants. Mm. Et les adolescents ne vont pas s'arrêter avec mes enfants. Les adolescents, ils sont là et ils sont notre avenir. Donc, ça a été vraiment une évidence, au contraire. Et ça rejoint ce que je disais, qu'est-ce que moi je peux faire? Si chacun de nous faisait sa part des choses, là, on déplacerait des montagnes. J'y crois fermement. Mmh. Et faire quelque chose, pas seulement pour sa pomme, encore une fois, pas seulement pour soi, faire quelque chose avec vraiment cette volonté de servir la communauté. Écoutez, je suis profondément patriote. Et toute ma carrière et les deux exemples que je vous ai donnés rejoint ce point-là, ce que je fais. J'ai envie, j'ai besoin que ça ait un impact sur la communauté, que ça serve la communauté. Donc, cette évidence, en fait, est-ce que c'est dû aussi à l'âge? À la maturité professionnelle aussi. J'ai aujourd'hui 44 ans c'est peut-être le moment aussi où je me dis, OK, le salariat, c'est très joli. Ça a été extrêmement, ça a été rassurant pendant une période. Ça a duré le temps que ça a duré. Maintenant, je prends le risque. Je prends le risque. C'est quelque chose pour une cause, encore une fois, une cause qui touche une personne, qui me touche en tant que personne, en tant que maman. Mm-hmm. Et voilà. Et c'est là où, en fait, tu viens à la rencontre de ta peur. Et tu dis, OK, tu sais quoi, je te remercie, mais aujourd'hui, on va arrêter, quoi. Et on va faire ce que j'ai envie de faire.
Alors, je vais poser quand même, ça, c'est parce que, à côté, on a aussi des personnes qui se posent ce genre de questions. Des oui. questions très terre-à-terre, au-delà de ce que j'ai envie de faire, de dépasser mes peurs, de vivre... Voilà, au-delà de ça, il y a le quotidien, il y a l'alimentaire, il y a le matériel, il y a le salaire, il y a... Voilà. Alors, Fatemzada Charabi, justement, ce volet-là, on le gère comment ?
Alors,
oui.
Je vais vous dire, c'est pas... Quand je vous ai dit, j'ai aujourd'hui 44 ans. Et je suis arrivée à cette maturité professionnelle et personnelle qui me permet de me dire « Ok, stop, je fais ce que j'ai envie de faire
ouais. ».
Ça inclut le côté financier. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte d'avoir suffisamment un matelas, si on veut, d'avoir ce dont j'ai besoin pour tenir le temps de créer cette entreprise
oui.
que j'ai envie de créer. Maintenant, il y a ça. Il y a un deuxième point qui est un peu plus spirituel, je dirais, mais,
oui.
mais tout aussi concret, mais extrêmement concret. C'est que lorsque moi j'ai pris ma décision, encore je vais vous parler de moi, lorsque moi j'ai pris ma décision, et vraiment prise, avec moi-même encore une fois. C'est tout se passe avec soi. Je l'ai vraiment prise. J'étais alignée dans ce que je voulais. Tous mes canaux étaient focus sur la même onde. L'univers, Dieu, appelez-le comme vous voulez, fait en sorte de mettre sur votre chemin ce qu'il faut pour vous aider. Et financièrement, et psychologiquement, et l'environnement, en fait, total, tout votre environnement se meut de façon à ce que vous arriviez à ce que vous voulez. Ça m'est arrivé à moi, personnellement.
Donc la quarantaine, c'est un bel âge.
Oui. Ah, c'est une merveille.
C'est une merveille, il ne faut pas en avoir peur. Voilà,
ben,
c'est
à loin de là.
De là, exactement.
Loin de là.
Fatemzada Charabi, merci beaucoup pour ce bel échange féminin, comme je les adore dans Femmes d'aujourd'hui.
Merci à vous, Lella.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femmes d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première, sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.